3, 4, 5 ans des céréales.
Les prairies, du coup, on arrive à les valoriser avec une production fromagère. Grâce à ça, il y a une autre ferme qui s'installe et qui peut valoriser ces prairies-là.
Oui, t'imagines Paul qui dit non, c'est maintenant, comme il le dit, Paul. Quand il dit non, c'est maintenant.
Bah, on entend dire non, c'est maintenant, quand on est 4, c'est plus facile que quand on est 2. Il y a plus de souplesse quand on est 4, il y en a toujours un qui peut y aller, quoi.
On a cet assolement en commun, on partage du matériel, donc on est imbriqué, de fait.
Tu sais que moi j'arrive à faire toucher mon oreille avec mon pied, tellement je suis souple.
Et en général, ça clôt les discussions.
Mais je pense que clairement, on aurait pu aller plus loin sur cette idée-là de collectif.
C'est hyper agaçant quand on entend parler. Sérieusement, mieux que j'entends dire que de la merde.
Ah, mais moi, ça m'agace. Surtout, toi, t'es spécialiste de ça, des fois. Je suis obligé de faire un travail sur moi-même.
Parce que sinon, tu ferais quoi si tu faisais pas de travail sur toi-même?
Bah, j'ai un truc comme moi, si tu veux.
Je travaillerais sur l'autre. C'est pas une nature où je vais pleurer dans mon coin, tu vois.
Je suis arrivé un an après leur installation. Je découvre des gens qui ont monté leur structure, qui au bout d'un an produisent, transforment, commercialisent. La question de la mutualisation des outils, du travail ensemble en ayant deux entités différentes juridiques, moi c'est des trucs que j'idéalisais presque. C'est un peu une force, mais c'est aussi un état de fait, en fait. Si on veut continuer sur nos systèmes respectifs tels qu'ils ont été pensés au départ, et ben on est obligé de continuer ensemble.
Du coup, je vais poser une question à Patrick. Sur le rôle du paysan en activité, sur la transmission et sur ta transmission à Lauriane, à ta fille.
Non, Lauriane, avant de s'installer, elle a travaillé 14 ans avec nous. En fait, mon beau-père avait 3 filles. Il y en a 2 qui sont paysannes. Et les seuls qui ont été troublés quand les filles se sont installées, c'est ceux qui voulaient récupérer les terres en disant « il a que des filles et la ferme, elle sera forcément disponible ». Une génération après, les choses chez nous, elles se passent. Pose pas comme ça. Pour moi, l'enjeu, c'était pas que ce soit un homme ou une femme qui reprenne l'exploitation, c'est que l'exploitation soit reprise sur des valeurs qu'on défendrait, sur la sensibilité, sur l'évolution, sur qu'est-ce qu'une ferme en dimension humaine. Je trouve que les femmes le portent beaucoup mieux.
Je pense qu'on aime moins être sur les tracteurs nous font moins rêver.
Putain, il y a une marche.
En formation, j'ai une fille, elle passait le bac pro CGEA comme moi. Elle faisait ça parce que son père lui avait demandé d'avoir la capacité agricole. Et en fait, le plan, c'était simplement de placer sa fille en tant que repreneuse, mais pas pour s'occuper de la ferme après. C'est pour pouvoir garder les terres et après, t'aurais des gens qui géreraient tout ça et elle ferait ce qu'elle a envie de sa vie, quoi.
Attention, il y a le tracteur, il faut pas courir parce que si maman elle arrive avec le tracteur qu'elle voit pas, t'es traduit, là.
Je voyais bien certains agriculteurs chercher à tout prix de « Ah bah oui, mais tu devrais faire ça parce que tu as une aide là-dessus. » Moi, je faisais pas l'agriculture pour ça, quoi. Enfin, moi, je faisais l'agriculture pour avoir des produits sains, que je m'en foutais du reste, quoi.
Regardez tout ce qu'elle a fait.
En fait, je voulais rebondir parce que moi, quand je me suis installée, je ne me suis pas posé la question de me dire « Je suis une femme, ça va être différent. » Voilà, en fait, clairement. Et je me suis installée parce que j'avais envie d'avoir des brebis laitières. Et j'avais l'idée de faire du fromage m'intéressait, mais pas plus que ça. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que Paul, il va s'occuper des animaux, puis toi, tu vas être à la fromagerie. Et pareil pour les marchés, tu vas faire les marchés, tu vas faire la compta. Moi, les marchés, c'est pas du tout mon truc. Donc, c'est les gars qui vont, en fait. Je trouve que ce qui est important, c'est pourquoi tu t'es installée. Et par contre, moi, j'ai jamais ressenti le besoin du groupe non mixte. J'ouvre ma gueule, je dis des conneries, mais je m'en fous si j'ai la réponse. Et ça passe bien. Et effectivement, on a des réseaux paysans qui font que c'est accueillant, qu'il y a de l'échange. J'ai pas senti plus la différence d'être une femme que d'être un homme.
Je
parce qu'aujourd'hui, dans les porteurs de projets que nous, on reçoit à CAP 44, le critère non issu du milieu agricole et issu du milieu agricole, c'est un critère hyper important dans l'apprentissage du métier, et c'est peut-être même plus discriminant que homme ou femme, en fait.
Là, il y a ça, là.
À la manivelle ?
Non, c'est surtout pas là qu'il m'a dit qu'il fallait la ranger.
Oh bah, ça doit être Elsa.
Donc c'est là.
On est quand même sur un Amazon D930.
Bah, c'est une bonne marque.
Ouais, mais tu vois, là, on est...
C'est une marque de semoir.
Et surtout, on est là sur un Dominator D14.
Ah.
Dominator.
Et là-bas, c'est un Denis, tu sais.
En fait, c'est ce qu'il faut...
Ça ne jette pas du rêve.
Je pense que la mécanisation est très importante pour maintenir en forme. Avant, combien de force humaine il fallait pour faucher, battre toutes ces tâches-là? Tu vois la machine, elle arrive, et bam, en trois quarts d'heure, une heure, tu as tes grains qui sont dans ta remorque. Sur la ferme, je considère que la mécanisation que l'on a, elle est un peu réduite au minimum. C'est-à-dire qu'on a un tracteur, c'est pas que des cartes électroniques. Si tu as le temps, l'envie, la passion de le faire, tu as des gens qui peuvent le faire.
Il y a beaucoup qui investissent pour paraître, en fait. C'est pas parce que tu as du gros matériel que tu as l'équipement pour mettre derrière. C'est pas parce que tu as un grand bâtiment que tu as besoin d'autant d'animaux pour vivre.
Si ton tracteur il pète, tu peux réparer jusqu'où ? Tu répares rien aujourd'hui. Le moindre pépin, on fait venir le réparateur, en fait.
Donner trop de pouvoir, ou c'est des grosses entreprises qui gèrent ça, je trouve qu'il y a une fragilité, ou en tout cas une faiblesse, par rapport à quelque chose qui est très important, qui est l'alimentation, quoi.
Nous, si on n'a pas d'électricité, on n'a pas de machine à traire, on ne fait pas de lait, on ne fait pas de fromage. Comment on fait, ça? Je ne sais pas.
Tu te dis, en fait, l'humain n'a plus la main dessus.
On en a besoin, hein. Grave, on est vachement là, on n'est pas du tout résilient.
Ça m'effraie.
Est-ce qu'ils l'ont été une fois? Bah peut-être, ouais, quand ils vivaient de rien, quoi. Quand ils vivaient de rien. Mais est-ce que c'était mieux? Bah je sais pas, moi j'ai pas envie de me tuer à la tâche non plus, quoi. Ah, on va se prendre dans la gueule, ce mur, et puis on verra comment on va se démerder après.
Dès demain, midi, nos déplacements seront très fortement réduits.
J'ai vu une fois une camionnette de flics passer dimanche et qui courait après Ramzi, mais c'est tout.
Et ça, c'est un peu normal.
Je les ai semés avec mon barrel.
Bah,
je suis à gauche, droite.
Puis je les ai vus en bas. Qu'est-ce que je fais d'après toi? Tu fais demi-tour. Tu les vois en bas que t'as aucun papier, t'as aucun justificatif.
Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises.
Les gens, ils ont énormément commandé en plus, j'ai halluciné.
Le lundi où j'étais allé livrer, 700% de vente en plus.
Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible.
C'est l'heure de quoi?
C'est l'heure d'aller dans
le verre,
non?
C'est l'heure.
En 2020, il y a le premier confinement. On a fait notre premier marché 15 jours avant, je crois. Les lieux publics étaient fermés. Et donc les gens, dans leur périmètre de sortie, ils tombent devant la ferme. On a trouvé des gens qui débarquaient sur la ferme et qui donnaient à manger à nos brebis sur le quai d'alimentation dans la bergerie.
J'ai vu ça les dernières années, moi. Je les voyais beaucoup qui regardaient, qui prenaient des photos, tout comme ça. Je me suis dit, oh, t'as vu? Alors, toutes les vitres se baissaient, puis les photos et tout ça. Moi, je trouvais, enfin bon...
C'était leur sortie, en fait. On est une vitrine, quoi. Il y a aussi des gens qui... Voilà, avec qui on a discuté, avec qui on a échangé, des gens qui sont venus au marché. On a pu faire visiter la bergerie à ce moment-là. C'est là qu'on a commencé à ouvrir la bergerie aussi. Puis ça a enclenché un truc, en fait. Des gens qui ont découvert la ferme et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi vivre la ferme sans y travailler.
Ça y est, on s'occupe de moi. On s'occupe de moi.
ça a un peu fait prendre du recul à cette idée de vitrine.
Super, merci. Voilà.
Ça, ça a été aussi l'occasion de rencontrer les voisins.
Alors du lait.
On a accueilli la MAP de Vigneux.
Vous avez eu une réponse de la presse, peut-être ?
J'ai pas une nouvelle de l'Interamap.
De l'aide extérieure aussi, des gens qui sont venus filer un coup de main, parce qu'on était quand même encore plus ou moins en phase d'installation. En fait, tout le monde est venu à la ferme. Et du coup, ça, c'est super, parce que c'est une porte d'entrée pour faire connaître le monde paysan.
C'est vrai que le monde agricole a un côté exotique. Aujourd'hui, les produits arrivent en ville. Vu que l'alimentation n'est plus le sujet principal de nos vies, parce qu'il faut d'abord travailler, se loger, se vêtir, être beau et être bien en société, bah en fait tu fais pas attention à ce que tu manges, donc t'es complètement déconnecté de la terre elle-même.
En fait, c'est le brebis que vous faites.
Mais c'est la même chose, non ?
Tu prends pas le temps d'aller voir comment les produits sont fabriqués. Parce que on a tout ce qu'il faut sous la main. On a le pouvoir en tout cas oui de consommer tout ce qui existe. Donc à un moment c'est dur de revenir en arrière quoi. Ça devient tellement loin.
C'est quoi la différence, expliquez-moi, entre des brebis et des chèvres, madame?
C'est pas le même animal.
Il n'y a pas de même. Ah, d'accord. Ils sont même pas cousins, non? C'est pas de la même famille.
Ah bah c'est des ruminants pareils. Hein.
Ah, d'accord. Ok. Non, bah...
Oh, on en apprend tous les jours. Hein.
Je vais vérifier sur Google, quand même.
Ouais. Sur Wikipédia, plutôt.
Ouais. Ouais.
C'était une maman avec sa fille qui doit avoir 6-7 ans et qui me demande si les poules ont besoin d'avoir un coq pour pondre.
Faut mettre des chaussures spéciales pour monter
Évidemment, la question me semble un peu rigolote, saugrenue, mais moi, ce que j'essaye, c'est de ressortir toutes mes connaissances biologiques pour qu'elle n'ait pas l'impression que je rigole d'elle, que je sois en train de me moquer.
Bah, là, c'est surtout pour pas rentrer à la maison. Là, après, je peux passer un coup de jet d'eau sur mes bottes.
J'ai essayé de lui trouver un exemple le plus parlant possible.
Et puis, elles comprennent quand même. Je dois dire, il y en avait déjà qui avaient compris comment boire, c'était marrant.
C'est que certainement, elles étaient à la pipette avant, en fait.
Tu sais, je lui dis, mais vous, vos règles, est-ce que vous avez besoin d'un homme pour avoir vos règles? Et après, je me suis dit, mais là, je vais m'enfoncer, je la connais pas, cette personne-là. Donc là, elle rigole et elle dit, bah évidemment non, en fait, c'est presque l'inverse.
C'était trop rapide pour que ça soit un apprentissage.
À partir de là, je lui explique que l'œuf de la poule, c'est son ovule. Et quand elle ovule, elle n'a pas besoin d'être fécondée pour ovuler.
Là, ça devait être des chaînes qui les erquillinent aussi. Mais dès qu'elles auront compris...
Je rigole bien des autres, mais ceci dit, je me revois moi il y a 10 ans avant que je m'intéresse à l'agriculture. Parce que moi, mes parents, ils sont pas du tout issus du milieu agricole. Vraiment, je me suis dit, bah non, il faut que je m'y intéresse. Et non seulement il faut que je m'y intéresse, mais il faut que j'y travaille. C'est de me rendre compte de ma propre ignorance.
Pour moi, c'est des gens qui n'ont jamais vécu dans la campagne. Moi, j'insistais parce que tout le monde disait, mais t'es con, je suis ta ferme. T'as moyen de faire des chemins, là. En bordure de tes parcelles, sur ton privé, tu fais des chemins, t'embarrasses personne, t'es pas dans les chemins publics, t'es pas sur la route. Pourquoi tu fais pas ça? Je dis non. Moi, mes grands-parents ont voyagé sur la route, mes parents ont voyagé sur la route. Moi, je continue sur la route. La route, elle est aussi bien aux vaches qu'aux voitures. Je ne céderai pas.
Allez, hop, hop, hop! Allez! Oh putain, je me suis dit, je vais me le fumer.
Je vais le défoncer.
Ça va ?
Il y a un bon avec vous là.
Bon,
on sait qu'on passe, nous, beaucoup de temps sur la commercialisation, pour gagner des fois pas grand-chose, quand on va faire des marchés, etc. Du coup, c'est comment, ensemble, on peut s'organiser pour mutualiser, gagner un peu de temps.
On observe. Sur les ventes et notamment sur la bio, quand même, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a eu un gros boom au confinement. Tout le monde s'est fait surprendre. Donc, on a vu beaucoup de fermes qui ont adapté leur système de commercialisation pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux mangeurs qui se sont dit maintenant, je vais consommer différemment. Je vais aller consommer dans les fermes. Et puis, sortie de confinement, en fin de compte, il y en a quand même beaucoup qui sont retournés sur leurs anciennes habitudes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur le circuit court, là où on a constaté qu'il y avait du maintien, voire de la hausse, c'est parce que les producteurs se sont organisés pour mutualiser les gammes, pour mutualiser la commercialisation, la logistique. On constate que ceux qui résistent le mieux, c'est ceux qui se sont mis en collectif.
La vente directe, c'est énormément de temps. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger du tout. Parce que les AMAP, c'est en soirée. Les marchés plein vent, ce qui marche bien, c'est le samedi matin ou le dimanche matin. Et c'est du temps qu'on bouffe sur la vie de famille. Et le fait de mutualiser les points de vente ou les livraisons ne permet pas que de gagner plus d'argent, permet aussi de se libérer plus de temps.
Bon, allez.
Moi, je fais un bisou.
Dépêche-toi parce que il faut que j'aille réveiller Alexis là, il est l'heure.
Allez, je vous passe. C'est que la copine elle va t'attendre. Voilà.
Disons que les premiers jours je me suis sentie toute bizarre, mais après je me suis habituée. Et puis, j'aime bien, je peux avoir des animaux en quantité et aller les voir. Je me sens plus libre puisque on a plus d'espace, on est plus... Enfin, c'est plus agréable et puis j'aime aussi beaucoup avoir un grand jardin. Super. Avec mon frère, on aimait bien faire des cascades sur les bottes de foin.
Hein ?
C'est devenu moins amusant quand on a appris que c'était interdit. Mais j'aime toujours aller faire du roller sur le quai d'alimentation des brebis. Moi, c'est Mélusine. J'habite à la ferme de la Joue avec mes parents et mon frère.
Personne ne voulait de cette maison de la ferme. C'était impensable qu'elle parte à quelqu'un qui était extérieur à la ferme. Heureusement que personne n'en a voulu, cette maison. Heureusement qu'on l'a prise. Parce que vivre à la ferme, c'est super.
Ouais, c'est très bien d'être. J'aime bien mes brebis.
J'ai mis des pneus justement dans les coins et c'est vrai que j'ai tellement peur quand ils courent.
Ah oui, moi je pensais que c'était pour les tracteurs.
Est-ce que j'ai des verres dans le cul, c'est ça ?
Non, ça c'est élégant. Pas une vraie princesse.
Une vraie princesse.
J'aime pas être.
Coucou.
Tu l'appelles comment ?
Doucement.
Il va l'appeler coquille.
La nuit, il va
être tout vivant. Elle est allongée, elle hurle.
Oh la pauvre.
Non, c'est comme ça la vie, elle va peut-être mourir en plus. C'est triste.
On va avoir des triplets. On va avoir des triplets.
Quand tu auras 12 agneaux, on jouera à Mario Kart.
Et les agneaux, ils pourront jouer à saut de clouton.
Genre les brebis, elles le balanceront sur une autre brebis. 3, 2, 1, go!
Attends, c'est moi qui vais prendre le son là.
Vas-y, hein, tiens, je te le
dis. Je veux bien, carrément.
Pouvoir avoir grandi à côté d'une ferme et du coup avoir grandi à la ferme, c'est tellement génial quand t'es gamin, quoi. T'as une enfance de rêve quand t'es dans une ferme. C'est offrir un truc à tes gamins qui est inestimable.
On vit la ferme et puis les animaux qui se barrent sur la route le dimanche soir alors que t'es pas d'astreinte. Ça fait chier, mais en même temps c'est tes animaux, même si c'est dimanche soir. Donc tu vas les chercher et puis ça arrive pas si souvent que ça non plus. Faut choisir de voir le verre à moitié plein.
J'ai une garde alternée avec la mère de mes enfants. Du coup, ils sont scolarisés à Nord et je veux garder la garde alternée qui, moi, me semble, c'est même pas discutable, c'est nécessaire à mon équilibre. Je pourrais avoir le choix de pas du tout faire ça et de vivre dans la caravane, défendre pourquoi pas un habitat sur la ferme ou prendre une location dans le bourg de Vigneux, de venir en vélo, ça sera un idéal, quoi. Enfin, c'est eux qui en subiraient les préjudices. Donc j'accepte ma situation paradoxale et de faire le transport.
Peut-être que si j'avais eu des enfants, j'aurais vécu à la ferme. Pour eux, pas pour moi.
Je sais que ce temps de trajet me coûte, tu vois, il me coûte parce que c'est une demi-heure, donc je sais que je calcule une demi-heure, si je pars à 6h30, c'est-à-dire que j'arrive à 7h, 7h30, on bouffe et tout, tu vois, je calcule tout un peu comme ça. Mais en même temps, ils m'aident quand même à faire la rupture entre la ferme et puis l'habitat, quoi, et puis ma vie en dehors.
Ne pas vivre sur la ferme, c'est pour compenser le fait que quand ça te prend la tête, bah ça te prend la tête 24 heures sur 24. Clairement, par rapport à quand j'étais salarié, cette distinction-là, quand je rentrais chez moi, bah alors là, ça y est, le travail, c'était vraiment derrière moi.
Déjà, en séparant, on passe des fois des nuits blanches à cogiter sur la ferme, alors si en plus on ne sépare pas... C'est un coup à ne pas réussir à dormir, à aller travailler à 1h du matin.
Victime de vol de moutons depuis plusieurs années.
On fait des clôtures électriques, puis un chien, quoi. Faut un chien ici, là. Avec une niche là derrière les bottes, là. Entre les bottes et la ferraille, là.
Je sais pas.
Ils aiment pas ça. Hein.
Ce qui génère les pics de travail, nous, dans notre ferme, c'est les cultures. C'est la météo qui dirige. L'idéal, c'est qu'il faut que les sols soient assez secs. Pour pas que les machines abîment la terre, pour pas que ça colle et tout ça.
Sur les champs, mais tu vois, 20 mm aujourd'hui, 20 mm demain, ça va être trempé, gueulé.
L'idéal, c'est qu'il y ait une pluie après les semis.
Les sécheresses, la haie, elle était morte juste en face. Maintenant, elle meurt un peu plus loin.
Il n'y a rien qui est garanti.
Les animaux, ils sont incontrôlables et... on est obligé de suivre leur rythme. Avec eux et...
Oh ma pauvre.
Bon bah c'est une brebis qui se met à gueuler à 23h, on part pas à 23h quand on partira quand elle aura fini.
La tête, non elle est coincée la tête.
Le fait de ne plus laisser le temps aux choses dans notre société actuelle, alors que de toute façon quand t'es paysan t'es obligé d'attendre.
Ça je pense qu'ils ont pas trop conscience de ça et de l'astreinte que ça représente en fait.
Elle bougeait pas la brebis, elle avait un agneau, bon il y en avait 9 en même temps que je suis arrivé.
Oh, moi je me gare, je veux la voiture du béton, je me dis, oula.
Quand j'avais un animal qui était en fin de vie, j'étais très très mal. C'est comme une personne qui est en fin de vie, quoi. Tu as tout le temps espoir qu'elle va revenir, mais tu es dans le déni, quoi. Tu sais bien que c'est pas possible. Et ça, je sais pas si le milieu extérieur arrive à comprendre ça.
À la reprise de la lactation, on se disait « putain, elles ont pas de lait, quoi ». Après, la brebis, elle va faire que descendre, en fait. Elle va produire moins de lait.
C'est pas parce que tu la traites plus vite que tu auras plus de lait ? On va pas arrêter de nourrir nos animaux, on va pas arrêter de payer l'électricité qui nous sert à faire marcher la machine à traire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut arrêter? C'est notre salaire. Ça reste la variable d'ajustement.
Il a flotté, du coup la matricière elle a pris dans l'ordre et c'était imbattable.
Du coup il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de salaire qui sort. Tu demandes un coup de main à la MSA. On te renvoie à faire des dossiers, que finalement on te dit bah non, en fait vous gagnez encore trop, mais en fait on gagne rien, mais c'est encore trop. C'est dur quand t'es sur le marché et que tu sais que déjà tu vas pas être payé à la fin du mois et que les gens te regardent et te disent ils sont pas donnés vos fromages hein, et qu'ils rentrent dans leur gros 4x4 qui coûte 30 000 euros. Et là tu dis mais c'est juste pas possible ce nombre quoi.
Moi je trouve ça triste.
Il y a des fois, moi, j'ai pas compris, quoi. Puis je disais à Paul, mais en fait, vas-y, mais c'est pas grave, tu feras ça la semaine prochaine, en fait. Il faut que tu fasses attention à ton corps aussi. Si ton corps, il lâche, ta tête, elle va lâcher, enfin, etc., etc., quoi.
À partir de 93, j'ai commencé à galérer. Je m'étais cassé une jambe, le maïs qui se loupe, 5 hectares, puis on les a récoltés sous un orage. On ne pouvait plus sortir les remorques des champs, ça pataugeait, ça, un fourrage ramassé sous la flottille dégoulinait partout, c'était, ça puait, c'était infect, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'on me veut du mal?
Tu dis, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ou de dire que c'est vraiment un métier de...
Il y a des moments en fait où il y a la fatigue, où on est chacun dans nos trucs, dans notre tête, on ne priorise pas de la même façon les chantiers, donc on ne s'écoute plus.
Salut Elsa, écoute, j'ai une nouvelle et puis j'ose t'apporter mon soutien. C'est pas des moments faciles, écoute, n'hésite pas à en parler et puis faut pas lâcher quoi. C'est pas un métier facile hein, qu'on a choisi non plus, ça c'est clair. Essaye de te retrouver des petits moments d'accroche et de plaisir aussi là-dedans et en me détachant du stress de tout ça quoi. Je sais que votre ferme compte pour pas mal de gens.
Puis après, tu reviens.
Après, tu vas boire un café.
Puis tu traites tes brebis. Puis elles sont mignonnes. Et puis tu retrouves tes collègues. Et puis tu rigoles. Et puis tu te dis, bon, allez hop, ça repart, quoi.
Souvent, quand on dit travailler avec les animaux, c'est plutôt devenir vétérinaire ou soigneur animalier. Et finalement, de continuer à aller dans la ferme où j'allais tous les week-ends, ça m'a encore plus donné envie de partir dans l'agricole, en fait.
J'ai passé toute mon enfance à 3 km d'ici, même pas. Donc forcément, je connais la joue, je connaissais Jean-Luc et ses parents à la ferme. Moi, j'étais fils aussi d'agriculteur en village d'à côté, enfin un peu plus loin même.
Et ensuite, quand toutes les brebis se sont offertes, elles vont aller dans leur jardin.
J'avais des bonnes notes et quand je leur sortais que je voulais devenir éleveuse, ils étaient là. Ah d'accord, Enfin, j'aurais jamais dit ça de toi.
Le discours était plutôt c'est un métier dur, c'est un métier qui rapporte pas, faites des études pour faire autre chose.
Et ils se disent que si je vais pas dans l'endroit qui a été décidé ou l'endroit qui est normal, je vais être moins bien. Alors que finalement, c'est eux qui vont plus mal le vivre que moi.
J'ai ma dose et j'ai envie d'aller bosser plus proche de chez moi déjà, et puis dans quelque chose qui me semble plus important dans le monde actuel.
Et donc je suis partie en première technologique, STAV, donc c'est sciences technologiques de l'agronomie et du vivant, contre l'avis des professeurs qui voulaient tous que j'aille en général.